générique. Bienvenue sur Radio U. C'est l'heure de Méta Radio, l'émission de radio qui se déroule dans la radio et qui traite de la radio, sur la radio, avec la radio, et c'est pour la radio. DJ Had,
hello,
merci DJ pour ce générique.
Oui.
Do it yourself.
Yes, yeah, yeah, yeah. Eh bien, bonsoir à tout le monde.
Eh bien, ce soir, comme on vous avait annoncé, c'était la dernière fois, on a eu cette idée-là, comme ça, c'est une illumination en plein direct, en plein live, de faire une spéciale collègue.
Voilà, du coup, nous avons des invités, des collègues
de travail.
De travail.
Je rappelle que Méta Radio, c'est une émission de radio animée par un professeur, moi-même, pour vous servir.
DJ Jim.
Et par un employé des pompes funèbres. Méta Radio, c'est de la pédagogie et de la réflexion sur la mort. On parle beaucoup du travail, des conditions de travail, de la mort, des inégalités sur la mort.
Entre autres.
Car nous ne sommes pas tous égaux devant la grande faucheuse.
Tout à fait. Alors, par quoi commence-t-on aujourd'hui, mon cher ? Directement par le sujet de nos invités, qui sont des collègues du travail. On va s'entretenir avec eux. Alors, on les présente ?
Eh bien, je monte les potards du micro numéro 1, du micro numéro 2 et du micro numéro 3. Écoutez, je vous laisse l'honneur de présenter vos deux collègues, Didi Had.
Alors du coup, ce soir, comme vous l'avez bien dit, cher ami, moi je travaille dans les pompes funèbres, dans le secteur du funéraire. Et ce soir, bon, il devait avoir un collègue... Oui. Qui fait exactement le même métier que moi, c'est-à-dire porteur, chauffeur, qui n'a pas pu venir, un empêchement de dernière minute. Je le salue, salut à toi mon cher, tu reviendras une autre fois, mon cher Popo, je te fais des bisous. Mais ce soir, il y a quand même deux invités qui sont là, alors je les présente. Il y a Liv, salut Liv.
Salut.
Liv qui a été stagiaire... Dans l'entreprise où je travaille, c'est ça, hein ?
Ouais, pendant 6 semaines.
Stagiaire en tant que conseillère funéraire.
Et maître de cérémonie.
Et maître de cérémonie, on va revenir sur là-dessus et expliquer ce que c'est. Voilà. Merci à toi d'être là.
Ça me fait plaisir.
Et il y a Camille, donc une connaissance de Liv, une pote à Liv.
Bonsoir.
Salut Camille, merci d'être là. Et toi aussi, tu as une petite expérience ou une grande expérience dans le secteur funéraire. Et il me semble que toi aussi, tu veux, ou en tout cas peut-être que tu envisages de travailler comme conseillère.
Oui, avec Liv, on s'est rencontrés dans la même formation qu'on a fait pour être conseiller funéraire et maître de cérémonie. Et avant, j'avais à peu près 7 mois d'expérience. Moi, j'ai fait pas mal de marbrerie. Et j'ai aussi porté, comme toi.
Merci à toi d'être là ce soir. Alors, on va expliquer c'est quoi les différents métiers. Qu'est-ce que ça veut dire maître ou maîtresse de cérémonie, porteur, chauffeur, conseiller, conseillère funéraire, etc. Ça va faire l'objet en partie de notre discussion de ce soir. En général, on va essayer de discuter. De quoi on va discuter ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, travailler dans le funéraire ? Qu'est-ce que ça nous fait ? Quelles émotions ça nous provoque ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? C'est quoi qu'on pense de ce métier-là ? Comment on vit les choses, etc. Avec peut-être aussi des problèmes, des questions que ça pose. Bon, voilà, quoi.
Des anecdotes. On veut des anecdotes.
Ouais. Et on va présenter aussi ton collègue.
Mon collègue ici présent qui s'appelle Christian, qui travaille dans mon collège. Il est arrivé il y a trois ans. Et quand il est arrivé, je dois dire, ça m'a fait une vraie bouffée d'air parce que je faisais des projets interdisciplinaires, mais un peu tout seul, parce que je crois que les projets que je proposais aux collègues, ils étaient un petit peu délirants et des fois, ça bloquait. Et depuis qu'il est là, je fais des projets interdisciplinaires avec lui. Et du coup, c'est moi qui ai du mal à le suivre. Bonjour Christian, professeur d'art plastique.
Bonjour à tous. Donc, ce soir, j'étais ravi de venir ici, notamment parce que j'ai croisé deux collègues, Camille et Liv, qui ont donc fait des études d'art comme moi avant de basculer dans le métier. Ce qui prouve bien que faire des études d'art, parfois les parents sont inquiets quand on propose à l'enfant, aux enfants d'en faire. Et ça mène à tout dans la vie et dans la mort aussi d'ailleurs.
C'est vrai.
On a donc un croque-monsieur entouré de croque-morts.
Tout à fait.
Je vous propose d'écouter une petite chanson.
Très bien.
Les VRP. Et on se retrouve tout de suite après.
Je m'appelle Fabrice.
Et moi c'est Stéphane.
Mon petit nom c'est Marc.
Et le mien Gilbert.
Le meilleur copain de Gilbert c'est Marc.
L'ami de Fabrice et lui c'est Stéphane.
Mon copain Gilbert est un gars très chic.
Mon ami Stéphane est bien sympathique.
Je t'en prie Fabrice, arrêtez boniment.
Excuse-le Stéphane et le représentant.
Avec Fabrice.
Ils sont collègues de bureau et tout se passe bien.
Il arrive que Marc bosse avec Stéphane dans la folie du travail, faction de bataille.
VRP, les vendeurs représentants faciés. VRP, voyageurs sans réplique qui font du porte-à-porte. VRP, les vendeurs représentants faciés. VRP, volontaires et rapides qui grimpent les paliers.
Got a remission for you to buy, it's very cheap. Cause I'm a VRP. And it's got a nice of you to be with me. Yes, I'm a VRP. And soon you want me to hold it when you pee. Now you got it right, cause you know who I am. It's really out of sight, cause you know I'm the man. You better keep it in touch, cause I can give you anything. From a double dutch to a box of aspirin. Keys, you lose your mind, I can find you a brain. Job is mine, all mine, I shoot a zig. And if you got a problem, just talk with me. Don't you believe in God, I'm gonna set you free. Cause I'm a VRP. And it's got a nice of you to be with me. And soon you want me to hold when you pee. Now it's time to go, but I'll be back soon. And next time I'll be able to get you to the moon. So don't you regret, cause I got some friends. In the middle of six, we got a few bargains. Now it's quite like, got no money left. Don't you worry, next time I'm gonna fish your ribs. Fish them down, anything you need. Rubber, baby, buggy, bumper, all the tapas through. Cause I'm a VRP. And it's kinda nice if you didn't be with me. Yes, I'm a VRP. And soon you want me to hold when you pee. Now it's time to go, but I'll be back soon. And next time I'll be able to get you to the moon. So don't you regret, cause I got some friends. And in matter of six, we got a few bargains. Now you cry a lie, you got no money to live. Don't you worry, next time I come and fish a ray. This and that and the thing you need. A rubber BB buggy bumper or a tapestry.
Oui, voilà, je vous ai mis les VRP parce qu'ambiance collègue, ambiance sympa. Et puis, nous, les professeurs, on devient de plus en plus des VRP avec la mise en concurrence. Et vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des VRP de la mort ?
Alors, VRP, rappelle-moi.
Ce sont les commerciaux, les vendeurs représentants placiers. Les commerciaux.
Ouais. Ouais, non, moi non, c'est pas trop ma partie, mais bah, y a des commerciaux hein, dans le funéraire, quoi. Il y a des gens dont leur taf, c'est la dénomination de leur travail, c'est commercial, mais en général, ils ne sont pas que commerciaux, ils sont conseillers, on les appelle des conseillers, conseillères funéraires. Mmh. Et ils sont aussi maîtres de cérémonie, mais on va revenir sur ces termes-là. Mmh. En fait, la discussion là, ça va être autour. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler avec dans le funéraire? Pourquoi? Comment on en arrive là? Qu'est-ce que ça nous fait? Voilà. Moi, je vais pour introduire, je vais lire un passage qui est tiré d'un livre que je conseille à tout le monde. Ça s'appelle La cendre de tes morts d'Albertine de Lampe. C'est une personne qui a travaillé dans un crématorium. Je ne sais plus lequel, et qui raconte son expérience. Elle en est venue à travailler dans le crématorium complètement par hasard. Il fallait bosser. Elle s'est dit, tiens, je vais faire cette expérience. Comment c'est? Pour voir, en fait. Et elle raconte son expérience, et elle raconte comment elle est accueillie par les collègues, souvent des hommes, comment ça pose des problèmes qu'une femme arrive dans ce secteur qui est... comme beaucoup de secteurs, très genrés encore, sur plein de plans. Elle raconte comment fonctionne un crématorium, etc. Alors, un crématorium, c'est quoi? C'est un endroit où les gens, quand ils sont décédés, il y a deux choix hein, de transformation de leur corps. Oui. Soit on les inhume, c'est-à-dire on les enterre dans des cimetières, dans un caveau, dans une tombe. Ils sont enterrés, ça s'appelle l'inhumation. Mmh. Ils retournent à l'humus. Soit ils sont cramés, ils sont brûlés, les cercueils et les corps des défunts et des défuntes. Et ça s'appelle la crémation. Et ça se passe dans un crématorium. Il y en a un à Brest. Il y a un grand crématorium au Verne. Mmh. Bref. Et du coup, elle raconte son expérience là-dedans. Dans ce livre-là, en fait, il y a une petite annexe qui raconte un peu l'histoire des pompes funèbres. Et juste pour dire deux, trois mots pour introduire la discussion, bah, enterrer des gens, faire des cérémonies pour les morts, c'est peut-être ce qui fait basculer un moment l'humanité. Ça, c'est comme la découverte du feu ou comme l'utilisation du pouce répréhensible. C'est une des bascules qui fait qu'on est humain. On va faire des cérémonies pour les gens qui disparaissent. Voilà, donc c'est vieux comme le monde, après, les cérémonies, voilà. Mais on va parler plutôt de ce qui se passe de nos jours. En fait, pendant des millénaires, ça a été l'Église qui a pris en charge... Les décès et les obsèques. Et puis, c'est assez récent, hein, c'est fin 19e et puis c'est 20e siècle que ça se laïcise. C'est-à-dire que les obsèques, les cérémonies pour les gens qui meurent et pour accompagner les proches sont pris en charge par les communes. Mais ça, c'est vraiment récent. C'est fin 19e, début 20e siècle. Et voilà, c'était un service communal. Et grosso modo, il y a quand même un gros changement qui se passe fin du 20e et début 21e. Donc là, on est dans un truc super récent, hein, encore une fois. C'est l'ouverture à la concurrence de ce domaine-là, à la concurrence privée. Et l'époque dans laquelle on vit, on est là-dedans. La concurrence effrénée avec des gros acteurs, des grosses holdings. Moi, personnellement, je travaille pour la plus grosse boîte des pompes funèbres, je ne dirai pas son nom, c'est la plus grosse, vous allez vite trouver qui c'est. Tout ça pour dire que voilà, c'est devenu un business. Alors dans notre monde, ce n'est pas étonnant, hein, tout devient un business, mais concrètement, ça pose question. Quoi. Quelque chose qui pendant des siècles et des siècles était quand même un service si public dans les 150 dernières années, mais avant qui relevait en fait, de la solidarité grâce aux églises et des familles a basculé dans le marchand, et c'est très récent. La discussion là qu'on va avoir lieu, c'est qu'est-ce que ça fait, en fait, travailler dans un domaine quand même assez fondamental, qui est celui de l'accompagnement des gens qui ont perdu un proche et puis qui font face à un événement quand même, je veux dire, quand même à la fois unique, unique, essentiel. On perd quelqu'un, on ne le verra plus jamais. Et à la fois un événement universel, quoi. On est voué à mourir, quoi. Je crois, hein. Les êtres humains sont mortels. Alors après, il y a des délires de certains qui veulent combattre, qui disent la mort c'est un problème, on pourrait imaginer ne pas mourir. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans ce genre de discussion.
C'est le transhumanisme.
Le transhumanisme, ça, ouais. On pourra l'évoquer, mais a priori, les êtres humains, comme tous les êtres humains, sont mortels. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait travailler dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que ça fait travailler dans un domaine hyper concurrentiel ? Et juste pour finir, il y a quand même, une alternative qui est en train de se créer là, depuis certaines années, avec des coopératives funéraires, avec tout un mouvement de gens qui ont envie de l'arracher de ce domaine-là aux marchands. Donc en France, en tout cas, il y a des coopératives funéraires qui se sont créées à Rennes. Il y en a une à Nantes récemment qui s'est créée et il y en a d'autres. Bon, voilà, il y a tout un tas de gens qui se disent que c'est pas possible en fait, de laisser ça aux marchands et à l'ultralibéralisme comme d'autres domaines. Hein. Ce n'est pas possible de laisser ça parce que bon, ça crée des inégalités. Ça crée un business quand même qui est assez terrible. Voilà. Donc, déjà, première question à... Alors, moi, je vais participer à la discussion. Parce que toutes les questions que je vais vous poser, je me les pose. Hein. Première question, mais comment on en arrive à travailler dans ce domaine-là ? Pourquoi ?
Ben, moi, j'ai fait un bilan de compétences il n'y a pas longtemps. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce métier ? Il y avait plein de choses qui m'intéressaient vraiment. Alors, il y avait le côté maître de cérémonie, écrire des textes, parler avec émotion de personnes. J'ai été longtemps aide à la personne pour des personnes âgées, handicapées, etc. Donc, j'ai été quand même assez proche de la mort pendant plusieurs années et je pense qu'il y a une curiosité aussi, aller voir qu'est-ce qui se passe derrière et puis exorciser la mort un peu quelque part.
Alors toi, tu voudrais être maître de cérémonie, maîtresse de cérémonie.
Maîtresse de cérémonie,
oui. On peut expliquer ce que c'est ?
Alors en fait, la maîtresse de cérémonie va recueillir en fait tous les souhaits de la famille du défunt mettre en forme des textes, des musiques, etc. pour rendre le plus bel hommage à celui qui est parti, qu'on aimait.
L'idée, c'est de faire une cérémonie pour la personne qui est morte, faire une cérémonie avec les proches, la famille ou les amis, pour marquer un temps quand même symboliquement fort. Qui va aider à faire le deuil.
C'est ça.
En tout cas, c'est une étape importante.
Et puis, c'est une alternative importante aux cérémonies religieuses que l'on connaît depuis de nombreuses années. Et les Français sont de moins en moins croyants, mais le besoin de faire une cérémonie pour quelqu'un qui part est toujours aussi fort. Et donc, c'est important d'offrir des alternatives.
Et... ça commence où le travail du maître ou de la maîtresse de cérémonie ? Parce qu'on l'appelle aussi le conseiller-conseillère.
Le conseiller, il va plutôt accueillir les familles endeuillées qui arrivent suite au décès d'un proche. Et le conseiller, il va organiser tout ce qui est obsèques, c'est-à-dire aller chercher le défunt à l'endroit où il est, l'emmener... à l'endroit où il doit aller, c'est-à-dire par exemple une chambre funéraire ou simplement passer par une chambre funéraire pour avoir une toilette et puis retourner chez lui pour être veillé. Et puis ensuite, il y aura toute la partie...
administrative.
Aide-moi, Camille. Toute la partie administrative. Oui, c'est très...
Ça dépend des... du coup, des entreprises. Le maître de cérémonie peut être aussi conseiller funéraire, mais ça peut être deux postes bien distants. Mmh. Et le conseiller funéraire va organiser toute la partie des obsèques du début à la fin. Et le maître de cérémonie, il va vraiment s'occuper du moment de la cérémonie avec la famille, faire en ce cas aussi un hommage le plus personnalisé, qui ait le plus de sens possible pour la famille et le défunt.
Ouais, le rôle du conseiller funéraire, en gros, c'est vous perdez un proche, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Bah voilà, on est là pour ça. On va tout organiser de A à Z. Aller à la mairie, organiser tout ce qui est, mise en bière,
faire le lien avec les autorités, en fait, ça c'est quand même...
Voilà, tout ce qui est...
Et on va se pencher sur la législation, s'il y a des soucis.
Ouais, il y a tout un cadre législatif après qui va autoriser de transporter la personne décédée de l'endroit où elle est décédée à une maison funéraire en général.
Ouais.
Alors une maison funéraire, c'est une maison, c'est un lieu professionnel où il y a des bureaux avec des conseillers et des conseillères et il y a des salons funéraires.
C'est ça.
Et les salons funéraires, c'est une chambre décorée avec un lit qui va accueillir la personne défunte. Et les proches, la famille, peuvent lui rendre visite, peuvent veiller auprès d'elle pendant quelques jours. Voilà. Après, c'est en fonction de ce qu'ils veulent, hein, de ce qu'ils ont décidé. Et après, il va y avoir le jour de la cérémonie où là, il y a différentes étapes. Mm. Première étape, la mise en bière. C'est quoi la mise en bière ?
La mise en bière, c'est installer le défunt dans son cercueil.
Voilà.
Et puis, pourquoi pas un petit recueillement avec la famille avant de...
C'est un terme
de dire bière. Au revoir.
Bière, c'est un terme curieux parce que c'est juste un synonyme de cercueil.
Mmh.
C'est tout. Je ne sais pas pourquoi on dit.
Non, c'était Béra. Ça voulait dire quoi déjà ?
Ça vient d'un mot.
Je crois que c'était civière.
Ah oui, si c'est ça.
Ça veut dire civière.
Ça veut dire civière ?
La mise en bière, c'est le moment aussi où on clôt le cercueil, on met le couvercle. Je sais pas comment vous appelez ça.
On va visser, on va voir le défunt pour la dernière fois.
C'est le moment le plus douloureux pour la famille.
Ça peut l'être, ouais.
La mise en bière, c'est vraiment l'installation de la personne dans le cercueil. Mmh. Après, il y a, comme tu dis, la fermeture. On met le capot sur le cercueil et on ferme le cercueil. Et oui, c'est un moment très particulier, très fort. Et les gens peuvent être très, très touchés et émotivement avoir des démonstrations très, très fortes à ce moment-là. Une fois que le cercueil est fermé, et ben là, deux choix. Si c'est une cérémonie religieuse, on part à l'église où se passe la cérémonie. Alors, on part, c'est-à-dire le cercueil est mis dans un corbillard et on se rend à l'église.
Ça s'appelle le convoi, d'ailleurs.
Le convoi funéraire. Mmh. Parfois, on peut faire un convoi à pied quand c'est pas trop loin, ou dans des petits villages, voilà. Voilà. Ça, c'est le cas de la cérémonie religieuse, où en fait, après, c'est la paroisse qui prend en charge, voilà, avec des chants religieux, avec tout un rituel religieux qui est toujours le même. Hein.
Donc ça, c'est la forme classique. Hein.
La forme classique qui est vraiment encore très forte en Bretagne, dans le Finistère.
Oui. Ouais.
Ailleurs, c'est beaucoup moins.
C'est combien déjà, Camille ? Tu te rappelles le nombre de personnes qui se font, qui font une cérémonie religieuse ?
C'est ce qu'on a appris.
Hein. Ouais.
74%.
74%, voilà. On a les chiffres exacts.
Dans le Finistère.
Dans le Finistère.
Non, pas dans le Finistère, c'est national.
Ah ouais.
National, ouais.
Tant que ça.
De cérémonie religieuse, attention, toute religion confondue.
D'accord.
Et par rapport à la crémation et l'inhumation, quels sont les pourcentages à peu près ?
Crémation, c'est en train de monter. Là,
moi, je ne les ai pas les.
Je ne me rappelle plus, j'ai envie de dire 47%.
Ouais, je crois que l'inhumation est encore supérieure, mais ça se rattrape et ça s'équivaut, quoi.
D'accord.
Mais en tout cas, les gens qui font des contrats obsèques, ils remarquent qu'il y a de plus en plus de demandes de crémation. Donc, on va de plus en plus vers...
Et l'Église catholique, pendant longtemps, interdisait la crémation.
C'est ça.
Et ça fait très peu de temps, en fait, que c'est autorisé religieusement. Voilà.
Depuis les années 60.
Ouais.
On peut donc avoir une cérémonie religieuse et ensuite une crémation.
Oui. Tout à fait.
Très bien.
En fait, c'était quoi déjà la religion catholique accepte la crémation dès lors que l'intégralité des cendres vont dans une urne funéraire qui sera ensuite mise dans un... C'est ça, non?
Ouais,
faut que l'intégralité des cendres soit inhumée.
Au cimetière.
Au cimetière.
Faut que ce soit dans un cimetière.
Donc c'est la condition.
Donc ça veut dire que les cendres sont mises dans une urne.
Et ensuite, sous terre, dans une...
Une cave urne, c'est ce qu'on
appelle
un petit caveau, quoi, un petit caveau pour une urne.
Ça peut être cave urne, caveau, columbarium, ouais, c'est pas mal déjà.
Donc c'est la condition de l'Église catholique.
Et l'autre type de cérémonie, t'en as parlé, c'est les cérémonies civiles.
Voilà.
Donc là,
ou laïques.
Ou laïques. Et là, qui se passe où, en général?
Qui se passe n'importe où. Qui se passe, ça peut se passer aussi bien chez soi que dans une salle des fêtes, dans une chambre funéraire. Ça peut être aussi, pourquoi pas, sur la plage ou dans la rue, n'importe où en fait, tant qu'il y a un accord du maire ou si c'est un lieu privé de la personne ou du directeur de l'entreprise où ça se passe.
Pour moi, je souhaiterais que ça se déroule à Radio U.
Voilà.
Et je travaillerai la playlist que vous diffuserez.
En direct, tu veux que ce soit en direct?
Oui.
Aussi?
Oui, oui, c'est ça.
D'accord,
tout à fait.
C'est noté. On note ta dernière volonté. Et alors, vous avez passé la formation pour devenir conseillère?
Tout à fait.
C'est quoi qui demande? Alors, il y a un côté législatif, je suppose,
qui est quand même
important.
Vraiment important. Ouais.
Est-ce qu'il y a après une formation du côté, je sais pas, anatomie, connaissance?
Ouais.
Vous pouvez dire, c'est quoi les attendus de cette formation?
On apprend vraiment un peu sur beaucoup de domaines différents, parce qu'on doit être vraiment polyvalent, totalement polyvalent, c'est-à-dire qu'on va apprendre l'histoire des religions pour bien connaître les rituels funéraires de chaque religion. On va apprendre l'anatomie, même si on ne va pas faire de thanatopraxie, nous, en fait, on a quand même beaucoup de bases. On sait quand même beaucoup de choses dessus, finalement. Mmh. Une partie législation qui va concerner le CGCT, donc le Code des collectivités territoriales.
Oui.
D'où est extrait le code funéraire. Et c'est là où on a toute la législation, et ça, on en apprend quand même beaucoup, parce qu'on ne peut rien faire sans ça. Donc tout ce qui nous permet de savoir si on a l'autorisation ou pas de faire quelque chose, ça va être là-dedans, et de savoir même les durées de concession, les renouvellements. Mmh. Et en fait, après, il faut savoir que chaque cimetière, chaque commune a aussi des spécificités. Donc il y a beaucoup de choses qui se font en local. Après,
on va avoir un peu de psychologie du deuil. Ouais. Mmh. On va avoir du protocole.
Ça veut dire quoi?
Le protocole, c'est-à-dire si la personne défunte était militaire ou alors haut gradé ou je ne sais pas, toutes sortes de choses.
On apprend des bases là-dessus.
Voilà, les bases. Après, il y a toute une partie sécurité. Aussi, sécurité au travail.
On connaît plein de choses sur les extincteurs et les différents types de feux.
Voilà. Après, on regarde en détail les métiers du funéraire. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le funéraire? Et puis, la vente aussi, parce qu'on vend des cercueils, il ne faut pas oublier.
Et du management.
C'est notre partie préférée, ça, vendre des cercueils. C'est sûr que c'est pour ça qu'on fait ce métier.
Ouais.
Et des urnes.
Quand j'ai pas enterré, puisqu'il a été
Crématisé. C'est ça le terme.
Mon cousin, parti trop tôt. On avait un très beau cercueil avec le couvercle en ardoise sur lequel on pouvait écrire des petits mots. C'est combien ça?
Ça dépend des marges de l'entreprise.
Ça coûte cher, hein.
Parce que c'est ça que je veux.
Après, rien n'empêche de personnaliser son cercueil. On a le droit de venir avec sa bombe de peinture et puis mettre un coup de laque pour faire comme un tableau noir et puis écrire dessus.
En fait, ce cercueil-là, c'est celui qui a été un peu pensé pour la personnalisation et pour que les gens puissent écrire dessus. Mais en fait, ceux qui sont le mieux, enfin, qui sont tout à fait adaptés pour ça, c'est les cercueils en pain brut. Parce que, en fait, ils sont tout à fait. On peut très vite s'en emparer, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Et en fait, c'est ça, on peut dessiner dessus.
Il suffit d'emmener des crayons gras et puis.
On peut coller des choses, on peut graver. En fait, le bois, il est quand même très, très
en fait,
tendre.
Tout est possible, le cercueil vous appartient. Et si pour vous, c'est important de laisser une trace.
Aussi dessiner
on peut le faire.
Par rapport au texte, aux musiques, tout est possible aussi.
C'est la famille qui nous guide. Hein.
Alors, ce que tu me disais la dernière fois, c'est que tout est possible, mais pourtant, tu me disais que toutes les cérémonies sont finalement assez uniformes.
Alors, j'avais dit ça dans mon premier ressenti au début, quand j'ai travaillé. Dans les pompes funèbres, ça fait un an et demi. Et les premières cérémonies civiles que j'ai assistées, je les trouvais uniformes, qui se ressemblaient. Toujours le même déroulé, avec des diapositives, avec des familles un peu paumées, en fait, donc qui se laissaient guider. Alors maintenant, en fait, je reviens un peu là-dessus. En fait, ça dépend vraiment des familles, en fait. Et j'ai assisté à des cérémonies où le travail de la conseillère ou du conseiller avec les familles a donné des cérémonies vraiment uniques, quoi.
Oui, ça dépend.
Ça dépend
des familles, ça dépend aussi du conseiller, de ce qu'il propose. Parce que souvent, les familles, comme tu dis, sont perdues. Et si tu ne proposes pas ce qui est possible, en fait, tu ne peux pas t'en emparer.
Et en plus, il faut savoir que légalement, il y a un temps en fait entre la date du décès et la date des obsèques. On ne peut pas attendre un an, quoi, par exemple. Il y a des délais
encadrés. À partir du moment où la personne décède, on a 6 jours pour.
6 jours.
Pour ou une crémation ou une inhumation.
Donc ça veut dire quand même qu'en quelques jours, il faut réussir à penser une cérémonie et des obsèques qui...
Ça va très
rapide.
Vite.
Ouais,
c'est pas évident, quoi. Voilà.
Quand on est un peu préparé et quand on a déjà des idées, ça va très très vite pour l'avoir vécu. C'est pour ça aussi que c'est bien d'en parler avec son entourage, que c'est assez primordial pour que ce soit des coécritures où en fait, le décès devient un peu une continuité. Ça facilite beaucoup.
Ouais, devient vraiment un moment de l'accompagnement du deuil dans lequel se trouvent les gens. Là.
Ouais. Dans le funéraire, il y a quelque chose qu'on appelle les volontés essentielles. Et les volontés essentielles, c'est ça. C'est est-ce que vous voulez être crématisé ou inhumé? Est-ce que vous voulez une cérémonie religieuse ou laïque? Et ça, c'est important de le dire à ses proches. Si on dit qu'une seule chose, on dit ça. Parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes au moment de la réunion avec le conseiller ou la conseillère funéraire où les enfants ne sont pas d'accord. Enfin bon.
Alors, DJ Jim, mon cher, est-ce qu'on a encore un peu de temps là sur le sujet ou pas?
Écoutez, il est 20h37, on a Christian qui est dans les starting blocks. Et si on mettait une petite chanson et qu'on en parlait hors antenne de tout ça. Liv, par exemple, qu'est-ce que tu nous as apporté?
Moi, je vous ai amené une chanson que j'adore de Billie Holiday. Et je trouve que voilà, le deuil, c'est ça. C'est « I'll be seeing you ».
Très bien. Alors, vous êtes toujours sur Radio U, c'est Meta Radio. Ce soir, on a invité nos collègues. Voici Billie Holiday.
in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
Méta Radio, ce soir, on invite les collègues et Billy Holiday aussi. Oh yeah! Eh bien, oh, on est à l'étroit dans ce format d'une heure. Mais on va passer à mon collègue à moi, qui s'appelle Christian. Et que je remercie d'être présent. Christian, toute cette discussion sur la mort, toi qui es professeur d'art plastique en collège et qui fais énormément de projets interdisciplinaires, de projets à l'extérieur. Qu'est-ce que ça t'inspire, Christian ?
Eh ben, nous, on a la chance, en fait, dans notre travail, d'avoir un métier qui est très vivant. Et dans nos partenaires, on travaille aussi avec des survivants, en fait. Notamment parce qu'on travaille depuis 3 ans avec le Brest Handisport, et notamment le président Stéphane, il m'avait déjà dit que dans le Finistère, pour les gens qui viennent d'être handicapés, ils font des stages en fait où on part une semaine, trois valides et trois néo-handicapés. Et il dit, c'est un stage, il faudrait que tu le fasses parce que c'est vraiment très fort. Parce que il dit, nous, de toute façon, on n'a plus peur de rien parce qu'on aurait dû mourir. Lui, c'était suite à un accident de moto. Donc, il dit, maintenant, qu'est-ce qui pourrait me faire peur finalement ? Donc, il dit, je peux faire du jet ski, du saut élastique. Ça me fait ni chaud ni froid. Et on se rend compte dans cette semaine de stage que pour les autres, les valides, c'est très, très dur parce que les angoisses sont beaucoup plus fortes, en fait.
Alors, là, t'es parti bien en tête. Il est toujours comme ça, Christian. Faut vraiment s'accrocher pour le suivre. En fait, tu fais énormément de projets avec de partenariats avec des clubs sportifs et notamment des clubs de handisport.
Voilà. Donc en fait, on a, je suis arrivé en septembre 2020, donc en Bretagne, et avec l'objectif de lancer un projet intitulé Arresport en route vers 2024. Et très très vite, j'ai rencontré aussi les gens du Brest Handisport. Donc on a aussi ouvert sur l'handisport tout naturellement. Après, oui, voilà, comme tu disais, on est toujours dans la recherche, en fait, de faire un truc qu'on n'avait pas prévu de faire, en fait. C'est pour ça que c'est un métier qui est tout le temps en mouvement. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, avant d'arriver, donc avec Jean-Marie, on a un projet cette année qui a beaucoup rebondi parce que l'an dernier, on avait fait un clip de rap qui s'appelle l'équipe du Cyclope. Donc Jean-Marie nous avait présenté Sticky Snake. Donc c'était une histoire déjà qui était un petit peu vaste en fait. C'était donc le championnat de hockey intergalactique, sport que nous avons créé avec fédération et tout. Donc du coup, c'est des équipes terriennes qui partent au fin fond de la galaxie pour essayer de gagner ce championnat. Et c'est comme ça que Jean-Marie était devenu le capitaine Jim, commandant du vaisseau de cette équipe du Cyclope. Et au fur et à mesure de l'année, on avait rencontré donc le Musée national de la Marine, Jean-Yves Besselièvre, notamment l'administrateur du musée, et Lénaïque Laute-Lombard.
Professeur Relais.
Voilà. Et donc du coup, très, très, très rapidement, l'idée c'était, mais quel est le lien finalement entre le hockey intergalactique et la marine en fait? Donc, alors je vois des gens qui nous font des gros yeux, mais finalement, c'est assez logique, puisque le vaisseau d'Albator, il est finalement très, très, très marin, en fait, en tant que tel. Et donc, pour nous, c'était assez évident de travailler avec le musée de la marine là-dessus. Et donc, on a fait notamment la finale d'Hockey Intergalactique, on a pu la faire dans la salle des figures de proue. Donc voilà, nous on a vraiment cette habitude d'investir les lieux, de tordre ou d'adapter les projets pour que, quel que soit le partenaire, on arrive à l'intégrer.
On avait aussi un partenariat avec les Albatros, l'équipe de hockey brestoise.
Voilà, et depuis cet après-midi, j'ai eu la confirmation que cette année, donc, nos élèves de 6e A vont créer donc, le logo de l'équipe du Cyclope, et l'équipe de 6B va créer l'équipe des Corrigans qui s'affronteront donc en finale. Alors cette année, on est très terre-à-terre, ça sera une finale qui aura lieu au lac de Brennilis.
En 2424,
donc avec la montée des eaux, donc on aura donc une finale sur le lac de Brennilis.
Contre les Corrigans.
Contre les Corrigans. Et comme cette année, il y a un concours national de devoirs de mémoire créé par le ministère des Armées, nous avons tout naturellement développé un partenariat avec l'Arsenal, en fait.
Et moi, j'ai une question à toi, le professeur. Pourquoi c'est important pour toi de faire des partenariats comme ça avec plein de choses? Pourquoi c'est important dans ton métier?
Ben d'abord, c'est dans nos missions. Nous, le but, c'est d'être capable de passer du local au global, hein, c'est-à-dire montrer aux élèves que dès qu'on sort de chez soi, on bascule dans le monde et finalement, il n'y a pas forcément besoin d'aller loin pour déjà construire quelque chose. C'est l'occasion, tous ces projets aussi, de croiser des professionnels, de découvrir des métiers et de leur montrer aussi que tout le monde peut s'inviter à la création. Donc, il suffit d'avoir envie justement de sortir et on a tout sous la main en fait. Donc, c'est très important de leur montrer.
Je pense que je partage ton point de vue. Et qu'est-ce qu'ils en disent, les élèves? T'as des retours Tu peux avoir un recul comme ça, critique de ce que ça leur apporte par ce qu'ils disent?
Oui, les retours, on les a. En fait, moi, dès que j'étais stagiaire en tant qu'enseignant, j'avais déjà, dès les premières réunions parents-professeurs, des parents qui venaient et qui savaient exactement mot à mot les intitulés des sujets. Donc ça veut dire qu'ils en parlaient chez eux, donc ça veut dire que ça trouve une résonance en fait. Il n'y a rien qui donne plus de sens que de savoir que ça a été transmis dans les familles et que ça nous revient en fait.
Et avec les collégiens, surtout les sixièmes, le feedback est immédiat. Si ça n'intéresse pas...
ils le disent.
On n'arrive plus à trop à les cadrer. Et on a participé à la Nuit des musées.
Oui, l'an dernier, on va aussi participer cette année. Et donc cette année, les particularités, c'est que donc le match de hockey, j'ai obtenu cet après-midi que ce soit l'équipe des Albatros, équipe professionnelle, qui joue avec les maillots créés par les élèves. Donc les élèves viendront faire le public. Et donc on a sollicité aussi l'armée pour nous amener des drones pour pouvoir filmer le match. Mais voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, on a tout sous la main. Donc l'équipement, il suffit de faire 5 km, on arrive à l'arsenal, on vient dans les radios du coin, on arrive très facilement, puisque l'an dernier finalement, c'est via toutes les connaissances de Jean-Marie dans le monde de la radio qu'on a pu croiser la caméraman Léa ou Sticky en fait.
Tu fais preuve là d'humilité parce que tu es quand même un chasseur de subventions. Et aujourd'hui, il y a eu une époque dans les collèges, bon, il y avait une subvention pour les projets, il y avait des heures sup, etc. Tout le monde avait à peu près la même enveloppe. Maintenant, il faut aller chercher les subventions, il faut participer à tel concours, à tel... comment dire, enfin, à des propositions qui arrivent comme ça, du conseil général, du rectorat ou du ministère. Et toi, tu passes énormément de temps quand même à remplir des dossiers.
Oui, je passe du temps, mais en même temps, c'est facile parce que tout est logique, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Prenons l'exemple, puisque nous, notre équipe de hockey qui gagne de nouveau le championnat, elle s'est lassée de tout le temps gagner, donc elle se dit, on va se donner un autre challenge, en fait. Donc, on va se mettre au vélo et à côté de chez nous, on a le Trobroléon. Donc, en 2424, ça sera le 440e anniversaire du Trobroléon. Donc, c'est aussi très motivant pour cette équipe. Donc, et comme on a la montée des eaux, c'est assez logique que le public se retrouve sur la mer, puisque de toute façon, le parcours actuel du Trobroléon se fera et sur l'eau et sur la mer. Donc, sachant que Jésus, puisqu'on parlait du sacré tout à l'heure, marchait lui assez facilement sur l'eau, pourquoi nos équipes ne rouleraient pas facilement sur l'eau ?
Alors tout ça est parti d'un partenariat que tu as fait. En fait, tu fais énormément de partenariats avec les clubs de sport, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc avec le Trobroléon, cette course de cyclisme du Léon, basée à l'Anilis. Hein.
Oui. Ça aussi, ça c'est logique parce que tu as vu Jean-Paul Mellouette, il est quand même assez barré quand même.
Hein. Ouais. En fait, cette année, c'est le 40e anniversaire. Donc dans ce partenariat, on a dit on va fêter le 40e anniversaire, on va faire des affiches, etc. Et on s'est dit non, le 40e anniversaire, c'est trop facile. Nous, on va fêter le 40e anniversaire.
C'est aussi le respect parce que comme Jean-Paul Mellouette fait l'affiche du 40e anniversaire, on n'allait pas nous-mêmes aussi proposer des affiches. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit en 2424, il ne sera plus là. Donc on ne vient pas lui prendre son travail en fait. Donc l'autre aspect aussi, donc du coup j'espère qu'on aura la belle poule, donc qui est le voilier qui permet aux jeunes marins de comprendre en fait les phénomènes de navigation. Donc ça, on a demandé à ce qu'on puisse tourner une partie du film dessus. Donc du coup on aura les supporters qui seront sur l'eau parce qu'ils n'auront pas le choix en 2424. Et du coup on va aussi demander des barges à fond plat au niveau de l'arsenal pour pouvoir quand même plus facilement rouler sur l'eau, en tout cas au moins donner l'illusion.
Et je vous dis une chose, c'est que Christian obtient tout ce qu'il veut. Par exemple, il nous a ouvert les portes de l'arsenal, ce qui n'est pas évident. C'est quand même...
C'est aussi eux qui nous ont ouvert les portes, parce qu'il y a quand même tout un cheminement au niveau administratif. Mais c'est vrai que Sylvain Frappier, qui est donc responsable de tout le secteur sportif au niveau de l'arsenal, il m'a dit qu'il aimait beaucoup notre démarche. Et donc, c'est vrai que ça nous incite à nous dire, bon, bah, allez, on va continuer à demander puisqu'il trouve intéressant ce qu'on fait. Le musée de la marine nous ont bien dit, vous ne nous oubliez pas cette année. Il faut vraiment que vous tourniez aussi une partie du film chez nous. Donc, eux, complètement assimilés, l'idée qu'un projet comme Devoir de mémoire doit forcément intégrer du sport, de la création. On n'est pas dans le devoir de mémoire fermé dans l'approche, en fait. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les cérémonies, c'est vrai que quand on cherche bien, finalement, une cérémonie, c'est tout, sauf figé, en fait.
Hey, là, vous êtes quoi ?
On est quoi ?
Est-ce que vous avez des questions à poser à Christian, professeur d'art plastique au Collège Croissard-Pénoc, à Guilherme, qui participe au projet Devoirs de mémoire, art et sport ? Etc. Et moi-même, je ne sais plus. Je le suis.
C'est difficile d'en parler. C'est difficile déjà de comprendre. C'est quand même très, très vaste, on dirait. Puis en t'entendant parler, on a l'impression qu'il y en a encore plein.
C'est ça.
Il n'a même pas dit le début.
Et non, il ne lui reste plus que 3 minutes. Ah qu'est-ce oui, que tu dirais en 3 minutes ?
En tout cas, ça donne envie de.
Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 minutes ?
D'être en 6e.
Et.
Finalement, il y a quelque chose d'assez classique de travailler avec des clubs sportifs parce que tu leur fais dessiner des corps. Et est-ce que il y a rien de plus classique que ce dessin-là de corps humain ?
En fait, le dessin, c'est comme de toute façon la colonne vertébrale en fait de toute formation artistique en fait. Donc de toute façon, la confrontation au corps, on est en permanence dans le dessin d'observation dès le départ. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un aspect plus jouissif à mettre les corps en mouvement. Donc de toute façon, le sport, c'est vraiment l'aboutissement le plus logique du travail de dessin. Mais en même temps, si on regarde bien dans l'histoire des arts, finalement, est-ce que vous avez en tête une seule œuvre de peinture qui vous vient en tête sur le sport ?
Sur le sport.
Sur le sport. Il y a toutes ces scènes de combat de la mythologie grecque.
Ça nous renvoie à la guerre en fait.
Ouais, c'est pas du sport.
Aux origines peut-être des Jeux Olympiques, puisque finalement les premiers sports c'était pour préparer à la guerre finalement. Mais quand on regarde bien, bon, il y a quelques exemples. Hein, quand on pense Degas quand même représentait beaucoup de courses équestres. On a Toulouse-Lautrec qui a aussi beaucoup travaillé sur le vélo.
Ah oui, beaucoup la danse aussi.
Oui, la danse.
Voilà, la danse aussi de Degas. Oui, en fait. Mais après,
et
ça pose la question.
Est-ce que c'est un sport ?
Oui.
Descendre un escalier, ça peut être un sport.
Il y en a quand même des peintures qui représentent.
Mais est-ce que la chasse à courre est un sport ? Je ne sais
moi,
pas.
Moi, je ne trouve pas. Mais voilà.
Est-ce que la danse est un sport, en fait ? Puisque la danse,
oui.
Il n'y a pas l'incertitude du sport dans la danse, en fait. C'est une chorégraphie qui est bien en place.
La radio
sport est là pour l'incertitude.
La radio est-elle un sport ? Travailler avec Christian demande-t-il des compétences sportives ? La réponse est oui. Il est 20h56. Je vous propose d'écouter le morceau de notre clip, l'équipe du Cyclope, qui parle du voyage dans l'espace et du hockey intergalactique qu'on a composé avec Sticky Snake. Et il va falloir rendre l'antenne. On est un petit peu frustrés. Hein.
Ouais. Bah, du coup, on va se quitter. On va se quitter maintenant. On peut remercier les invités. Merci Christian.
Merci Liv. Merci Camille.
Vous revenez quand vous voulez, puisque le sujet du travail de pédagogie avec l'art et le sujet de la mort, on est loin d'avoir fait le tour. Donc maintenant, vous connaissez
nos
la
collègues.
Radio U, ouais. Vous savez où c'est.
Et les auditeuristes connaissent nos collègues et vont maintenant connaître le morceau, l'équipe du Cyclope. Je vous dis à mercredi prochain pour mon émission musicale. Allez, ça y est, il faut que je lance vraiment l'équipe du Cyclope.
Au revoir.
Journal de bord du capitaine Jim. Voilà 6 mois que nous traversons l'univers à bord du bateau volant le Cyclope. Avec mon équipage de monstrologues, nous explorons les galaxies à la recherche de formes de vie inconnues.
Embarquement des 6, c'est les plus cinglés.
Je prends mon bol de lait devant la voie lactée.
J'ai géré les rimes devant le capitaine Jim.
Bim, bim, la meilleure c'est ma team.
On monte sur le bateau avec tout l'équipage.
On y va, en route, pour un long voyage. On voit des météorites qui détruisent des satellites.
Plus de pression atmosphérique, ambiance magnétique.
On navigue dans le vide, près des astéroïdes.
Je salue la Lune et je fais coucou à Neptune.
En flottant, j'avance légèrement.
Dans mon télescope, il fait du hip-hop.
attention, décollage vers Triton.
Il fait nuit et c'est parti pour l'infini.
Avec nos combinaisons, sous les constellations, nous doublons une comète
et les passons des planètes.
Et les passons des planètes. Et les passons des planètes. Et les passons des planètes. Et les passons des planètes.
On est qui?
On est qui?
L'équipe du Cyclope.
En rap et en hockey, ok on est au top.
On traverse l'espace vers une planète de glace.
C'est nous les as des astres, on veut la première place.
On est qui?
On est qui?
L'équipe du Cyclope.
En rap et en hockey, ok on est au top.
On traverse l'espace vers une planète de glace.
C'est nous les as des astres, on veut la première place.
Journal de bord du capitaine Jim. Planète Triton. Dans cet univers de froid extrême, nous avons rencontré des extraterrestres se déplaçant en patins à glace. Ils nous ont défié à un match de hockey intergalactique.
On attrape nos crosses et on sort du vaisseau du boss.
Le palais des raps, je l'attrape et je rappe.
Je glisse sur la glace, ouais je suis trop badass.
Dans les balustrades, le tricky met de la pommade.
Je trace et je passe, c'est trop la classe.
Un meilleur joueur sort, ils sont tous morts.
On est des winners, oui c'est notre heure.
Les adversaires sont crétins,
ils savent même pas mettre leurs patins.
Galaxy, nous voici, on sait qu'on va gagner.
Ils font des fautes dans la fosse, se font des postes avec leur crosse.
Dans les gradins, le public devient gueudin.
Pétard, c'est la mi-temps, il est trop tard pour les mutants.
Accélération, petit pont, action.
En face, ils sont sans réaction.
Zigzag sur le terrain, pas serein, le gardien chute.
Je dribble, je tacle,
je tire.
Et but.
But pour l'équipe terrienne qui remonte le score dans ce match. L'équipe du Cyclope célèbre ce point d'égalisation. Les supporters sont en ébullition, c'est la folie dans les tribunes. Les aliens, eux, sont en rage et frappent la glace de leurs tentacules.
On est qui?
On est qui?
L'équipe du Cyclope.
En rap et en hockey, ok on est au top.
Pas là par hasard, quand on joue c'est de l'art.
Il faut y croire, on est là pour la victoire.
On est qui?
On est qui?
L'équipe du Cyclope.
En rap et en hockey, ok on est au top.
Pas là par hasard, quand on joue c'est de l'art.
Il faut y croire, on est là pour la victoire.
Le match intergalactique reprend. L'équipe du Cyclope engage Eva qui va vers le but et passe derrière la cage. Elle fait la passe en retrait à Titouan. Il tire et c'est notre but. Le score est désormais de 4-3. Attention, l'arbitre va siffler la fin du match. Ça y est, le match est terminé. L'équipe du Cyclope est champion intergalactique de hockey. Partez, partez, partez. L'arbitre se fait manger.